revue de presse qui est présentée comme chaque matin par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Dans la presse étrangère ce matin, on commente la démission de François de Rugy, mais c'est finalement surtout d'Emmanuel Macron dont il est question.
Oui, car François de Rugy, c'était un pilier de la Macronie. C'est ce que pose d'emblée The Wall Street Journal dans l'article concernant cette démission. Et le départ du ministre français sur fond d'argent public dilapidé en dépenses personnelles luxueuses, eh bien, c'est un revers pour le président français. Il arrive au pire moment, celui où Emmanuel Macron semblait enfin arriver à faire oublier son image de président des riches. Le mouvement des Gilets jaunes a beau être à bout de souffle, lit-on encore dans le Wall Street Journal, les récits des repas entre amis à l'hôtel de Lasset, les images surtout des homards géants et des bouteilles de vin à 500 euros pièce, tout ça ne fait que remettre de l'essence sur les braises encore mal éteintes de cette colère française contre une élite parisienne perçue comme arrogante et privilégiée. Vu d'Allemagne, ce qui frappe la Süddeutsche Zeitung, c'est le décalage entre un François de Rugy qui s'était bâti une image de moralisateur de la vie parlementaire et ce que Mediapart nous a appris sur son supposé train de vie aux frais du contribuable. Sa démission, écrit Léo Klim, c'est un signe de changement politique en France. Il n'y a pas que l'ex-ministre qui ne digère pas le homard. Les citoyens, eux non plus, ne le supportent plus, comme ils n'acceptent plus ce qui a longtemps semblé naturel dans la vie politique française, le luxe et les privilèges réservés à ceux qui les gouvernent.
Et voilà qui nous ramène à Emmanuel Macron, Camille. Emmanuel Macron, dont le Financial Times nous rappelle qu'il a été hué, sifflé par quelques centaines de personnes dimanche lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Oui, pour le président français, l'affaire, ou plutôt les affaires de Rugy, n'était pas supportable. Lui qui se voyait ces derniers mois en phase avancée de réconciliation avec son peuple. Et pourtant, El País en Espagne rappelle que publiquement, en tout cas, Emmanuel Macron et son exécutif ont maintenu leur soutien à François de Rugy, malgré une semaine de révélations quasi quotidiennes. Le magazine britannique The New Statesman n'y va pas par quatre chemins. Pour Pauline Bock, cette séquence restera comme particulièrement destructrice pour l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron, celle de moraliser la vie politique française, de faire le ménage dans les pratiques du vieux monde. En cela, François de Rugy et ses homards en étaient arrivés à personnifier le décalage crucial entre les attentes réelles en la matière de la population française et les réticences de son élite à renoncer à son confort. Enfin, un aspect peut-être secondaire à toute cette affaire, mais révélé par Richard Verli du journal Le Temps en Suisse, avec la démission de François de Rugy, Emmanuel Macron perd une bataille importante dans la guerre qui s'est progressivement installée ces derniers mois entre la Macronie et le journal en ligne Mediapart. La majorité présidentielle accuse souvent l'équipe d'Edoui Plenel d'enquêter uniquement à charge sur la base d'informations non vérifiées, mais cette fois non plus, Mediapart n'a pas pu être mise en défaut, note Richard Verli qui relativise tout de même en ce qu'elle n'implique pas directement le cercle présidentiel. Selon lui, l'affaire de Rugy ne devrait pas causer à l'image d'Emmanuel Macron les mêmes ravages que ceux causés par l'affaire Benalla. C'était il y a très précisément un an.
On part en Italie maintenant pour la suite de votre revue de presse, Camille, en Italie où Matteo Salvini se présente en victime de l'extrême droite.
Oui, c'est en rapport avec la découverte lundi d'un impressionnant arsenal appartenant à un groupuscule néo-nazi. Des armes, des insignes du Troisième Reich et même un missile RR en parfait état de marche, tout ça retrouvé dans un hangar près de Pavie, dans le nord de l'Italie. Depuis 24 heures, on guettait forcément la réaction du ministre et leader du parti lui-même de droite extrême, la Lega. Et cette réaction de Matteo Salvini est donc arrivée hier, nous dit la Stampa. Toujours prompt à surprendre son public, Salvini a expliqué à la presse que le réseau néo-nazi démantelé lundi voulait en fait s'en prendre à lui, qu'il avait reçu des menaces de mort et qu'il était donc la victime dans cette affaire. Le souci, poursuit Il Fatto Quotidiano, c'est que depuis les déclarations du ministre, eh bien les enquêteurs en charge de toute cette affaire ont expliqué qu'il n'y avait pas d'éléments permettant d'affirmer cela. En fait, Matteo Salvini fait référence à une enquête qui avait été lancée suite à un témoignage d'un ancien agent des services secrets russes, lequel avait déclaré à ses homologues italiens en juillet dernier avoir entendu des ultranationalistes ukrainiens pro-nazis en pleine guerre du Donbass évoquer, c'est vrai, un projet de meurtre contre Matteo Salvini. Cette piste, ajoute le journal communiste Il Manifesto, a bien été suivie par les enquêteurs italiens, mais elle ne s'est pas révélée concluante. Elle a tout de même permis, en espionnant des conversations en ligne de militants néo-nazis, eh bien, elle a permis aux policiers tout de même de remonter jusqu'à la cache d'armes de Pavie. Alors vous l'aurez compris, l'affaire est encore nébuleuse, mais pas assez en tout cas pour offrir à Matteo Salvini le statut de victime qu'il tentait de se donner. Et c'est d'autant plus surprenant de voir le ministre évoquer l'Ukraine et ses défenseurs soi-disant néo-nazis, quand on sait avec les dernières révélations en date d'hier du journal La Repubblica, eh bien, que les soupçons de financement russe pour son parti, la Lega, n'ont pas fini de l'embarrasser dans l'opinion publique italienne.